Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui l'Église célèbre avec une très grande solennité la naissance du précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Habituellement, pour les autres saints, l'Église célèbre leur mort, ou pour mieux dire, leur deuxième naissance, leur entrée au ciel. Pourquoi alors déroger à cette règle et faire plus de cas du jour anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste plutôt que de sa mort, de sa mise à mort par Hérode? La réponse est facile. Dans la fête de Jean-Baptiste, l'Église considère non pas ce qui fut le plus avantageux pour ce saint, mais ce qui fut le plus salutaire pour l'univers entier. Or, cette naissance de Jean-Baptiste annonça au monde la naissance de Jésus-Christ, dont il est le précurseur. Et cette annonce fut la plus heureuse que le monde reçut jamais. Pourquoi fallait-il un précurseur à notre Seigneur? Oui, pourquoi était-il nécessaire, dans la pensée divine, que Jean précédât notre Seigneur, qui a pourtant affirmé « Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi ». Premièrement, nous répond saint Jean Chrysostome, pour nous apprendre la dignité du Christ, qui a lui-même ses propres prophètes, comme son Père. Ce sont les paroles de Zacharie, « Et toi, enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ». En second lieu, il ne fallait laisser aucun prétexte à la fausse réserve des Juifs. Comme l'a dit notre Seigneur, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il est possédé du démon ». Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un homme qui aime la bonne chair et un buveur de vin. D'ailleurs, il fallait que les premiers témoignages en faveur du Christ vinssent d'un autre que lui. Sans quoi, les Juifs auraient objecté ce qu'ils lui dirent un jour où il avait parlé de lui-même. Vous rendez témoignage de vous-même, votre témoignage n'est donc pas vrai. La mission essentielle du précurseur était de faire connaître notre Seigneur comme vrai Messie. Ecce Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. Et Jean a parfaitement rempli cette mission, non seulement par sa prédication, mais encore par toute sa vie. En effet, si l'on considère les circonstances extraordinaires par lesquelles il a vu le jour, tout en lui rappelle notre Seigneur. Cela est si vrai que les Juifs les ont pris l'un pour l'autre. On a pris notre Seigneur pour Jean-Baptiste et Jean-Baptiste pour notre Seigneur. Et c'est sans contredit un des plus glorieux titres de gloire de Jean-Baptiste que le Sauveur l'ait rendu semblable à lui sous beaucoup de rapports. Comme notre Seigneur, Jean fut annoncé par de nombreux prophètes, tel le prophète Malachie. Voici que j'envoie mon ange, il préparera la voie devant ma face. Il fut aussi montré à Isaïe, qui dit de lui, une voix retentit dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Autre point de ressemblance, leur naissance à tous deux, annoncée par l'ange Gabriel. Ce dernier révéla la conception, l'excellence, la dignité, la sainteté et jusqu'au nom du Messie à la Vierge Marie, au jour de l'Annonciation. De la même manière, il révéla à Zacharie la conception de Jean-Baptiste, sa mission de précurseur, sa dignité, sa sainteté et jusqu'au nom qu'il fallait lui donner. De plus, la naissance de Jean-Baptiste comme celle de notre Seigneur est marquée par le miracle, quoique le miracle, bien sûr, soit moindre pour Jean-Baptiste. Notre Seigneur est né d'une vierge, Jean d'une mère stérile et fort avancée en âge. Deux miracles. Et puis, ces deux naissances furent accompagnées de plusieurs miracles. Le chant des anges fut entendu. Les bergers et les mages vinrent adorer l'enfant Jésus. À la naissance de Jean, sa mère, instruite par le Saint-Esprit, lui donne un nom. Un nom inaccoutumé dans leur famille. La langue de Zacharie, son père, se délie. Et sous l'inspiration divine, il célèbre l'hymne du Benedictus, dans lequel est relaté le mystère de la rédemption. Ajoutons que dès son incarnation, dans le sein de la Vierge Marie. La première chose que va faire notre Seigneur, par l'intermédiaire de Notre-Dame, c'est d'aller visiter son cousin. C'est la première chose, pour le purifier du péché originel. C'est la première visite de notre Seigneur, son premier voyage sur terre, pour purifier Jean-Baptiste. Mais cela ne suffisait pas pour qu'il puisse remplir pleinement son office de précurseur et qu'il préparât les voies à notre Seigneur. Il fallait encore qu'il l'annonçât par l'admirable genre de vie qu'il mena et le tonnerre de sa parole. Il frappa tellement les regards et les esprits de tous que même les soldats, les publicains, les pharisiens, c'est-à-dire les gens les plus décriés et les plus corrompus de cette époque, venaient à lui et confessaient leurs péchés, lui demandant ce qu'ils devaient faire pour échapper à la colère de Dieu et au feu éternel qui les menaçait. Ce fut surtout par son extérieur pénitent et l'incroyable austérité de sa vie qu'il mérita cet éloge notre Seigneur, vous le connaissez, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu avec mollesse ? Mais ceux qui vivent dans des vêtements précieux sont dans les palais des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Et tel fut Jean-Baptiste. Un caractère ferme, une âme trempée, non pas un roseau agité par le vent. Un homme à la vie austère, à la vie pénitente, et non pas vêtu avec mollesse. Nous connaissons dans la Sainte Écriture un contre-exemple. C'est le prophète Samson. Lui aussi, à sa naissance, il y a le miracle. Lui aussi fut un prophète de Dieu. Mais quelle différence dans le genre de vie. Samson aima fréquenter le monde. Samson aima le monde. Il ne sut pas se défier assez de ses charmes trompeurs. Et c'est ce qu'il perdit. Au contraire, Jean-Baptiste a su se garder pur de la contagion du monde, non seulement par l'éloignement, mais encore par des pratiques de mortification et un réel recueillement et une intense vie de prière. Cette vie, nous dit saint Cyrille, amena Jean au sommet de la perfection et fit de lui l'objet de l'admiration universelle, à tel point qu'on le prit pour le Christ. D'autre part, Jean-Baptiste prépara les voies à notre Seigneur par sa prédication. Cette prédication fut à la fois dogmatique et morale. Dogmatique. Jean-Baptiste nous a fait connaître la personne de notre Seigneur. Premièrement, comme Dieu homme. Post me venit, qui ante me factus est, qui a prior me erat. Celui qui est venu après moi était avant moi. Car si notre Seigneur était avant Jean-Baptiste, ce ne pouvait être qu'en vertu de sa divinité, nous dit saint Augustin. Et s'il était après Jean, ce ne pouvait être qu'en vertu de son humanité. Il était donc homme. Et s'il était avant et après Jean, ce ne pouvait être qu'en vertu de ses deux natures. Il était donc Dieu et homme. Et c'est ainsi que concluent les pères de l'Église. D'après ce seul témoignage de Jean-Baptiste, pour fermer la bouche aux Ariens, aux Nestoriens et aux Utiquéens. Trois sectes hérétiques qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par ce témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous a fait encore connaître notre Seigneur comme Rédempteur. Voici l'agneau de Dieu qui doit être immolé en victime pour le salut du monde. Ecce qui tollit peccata mundi. Voici celui qui efface les péchés du monde. Il nous l'a fait connaître encore comme sanctificateur des âmes, lorsqu'il prêchait que nous recevons tout de sa plénitude, comme auteur de la grâce aussi et des sacrements, quand il apprenait aux Juifs que le baptême du Sauveur était encore plus efficace que le sien. Ipse vos baptizabit in spiritus sancto et igne. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Enfin, il nous l'a fait connaître comme juge, quand il assurait que Jésus-Christ viendra à la fin des siècles avec le vent pour séparer le bon grain de la paille. Cuius ventilabrum in manu eius. Il a son vent dans sa main, il nettoiera parfaitement son aire, et il amassera le froment dans son grenier. Mais il brûlera entièrement la paille au feu qui ne s'éteint point. Notre Seigneur sera juge des vivants et des morts. Prédication dogmatique, assurément. Prédication morale aussi. Il a prêché la pénitence, et son baptême était un baptême de pénitence. Et en cela, il n'a jamais fait exception de personne. Toujours animé d'un très grand courage, il a non seulement appelé race de vipères les pharisiens, malgré leur réputation de piété, mais même, il a repris le roi Hérode en face, en public, sans avoir recours, comme fit le prophète Nathan avec le roi David, à une parabole. Il lui a dit directement, « Non licet tibi habere uxorem fratristui »« Tu n'as pas le droit d'avoir pour femme la femme de ton frère. » Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Et il faut noter, avec saint Jean Chrysostome, que la sévérité de ces paroles, qui jeta l'effroi sur les publicains, fit trembler tant de pécheurs, ne les porta jamais au désespoir. Au contraire, elle les porta à la pénitence, au regret sincère de leur faute. Tirons maintenant, si vous le voulez bien, quelques leçons de cette vie de Jean-Baptiste. Nous aussi, nous avons à être, dans une moindre mesure, cela s'entend, des précurseurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur veut que nous préparions ses voies auprès des âmes que nous côtoyons. Et le contraire serait anormal. Nous porterions la grâce dans nos âmes, nous porterions notre Seigneur dans nos âmes, et nous n'exercerions aucun rayonnement autour de nous. Quand on pense à toutes ces âmes qui vont en enfer, faute d'avoir rencontré quelqu'un qui leur ait fait l'aumône de la vérité, l'aumône d'une prière, l'aumône d'un sacrifice. Sœur Lucie écrivait à un séminariste que c'est en tourbillon que les âmes tombent en enfer, en tourbillon. Et la petite Jacinthe de Fatima a été tellement effrayée, horrifiée par la vision de l'enfer qu'elle s'est imposée pénitence sur pénitence pour arracher des âmes à l'enfer. Elle n'en faisait jamais assez. Et ce qu'elle a fait, qui est vraiment dur pour une petite fille, ne lui paraissait encore comme rien du tout pour tant d'âmes qui tombent en enfer. Le cardinal Pie se lamentait de ces chrétiens sans esprit de pénitence, sans pratique de mortification, qui s'imaginent pouvoir subsister dans une vie commode et sensuelle, dont le christianisme est trop souvent personnel, égoïste, étranger à la noble passion du dévouement et au bien spirituel et au salut éternel du prochain. La première chose à faire est bien entendu de prier, d'avoir à cœur de prier pour la conversion des pécheurs, et cela est à la portée de tous. Notre Seigneur a demandé à la sœur Consolata Bertone qu'elle récitât le plus souvent possible cette courte oraison jaculatoire « Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes ». Et la sœur répétait sans cesse cette prière. Et elle a dû sauver beaucoup d'âmes. « Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. » Quelle belle prière. Quelle belle prière. Mais il nous faut encore aller un peu plus loin, comme saint Jean-Baptiste. Avoir le courage, dans certaines circonstances, de dire la vérité. Certes, avec tact et prudence, bien entendu, mais la vérité tout de même. Ce qui nous impose de nous former, de lire, donc de nous intéresser à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, de façon à pouvoir défendre ses droits, à venger les attaques contre son Église. Sommes-nous capables de répondre à ceux qui critiquent l'Inquisition, à ceux qui critiquent les croisades, qui défendent à notre Seigneur de régner sur la société, qui prêchent l'État laïque, sommes-nous capables Et puis, plus encore, toujours à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, notre vie doit être édifiante. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, nous a dit notre Seigneur, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une âme remplie de notre Seigneur est la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous nous en rendons compte nous-mêmes. Exempla traunt, les exemples attirent. Il est beaucoup plus facile de faire action de grâce après la messe dans une église où tout le monde est recueilli, en paix, en silence, tout le monde uni à notre Seigneur. C'est beaucoup plus compliqué quand l'église se transforme en hall de gare après le chant final. Et voyez-vous, les gens du monde, quand ils savent qu'ils ont affaire à un catholique, à plus forte raison à un traditionnaliste qui va à la messe tous les dimanches, ils l'observent. Ils le testent. Voire ils le tentent pour savoir si ses paroles sont en conformité avec sa vie, s'il pratique les principes qu'il professe. C'est automatique. C'est automatique. Comme un professeur qui se fait tester par ses élèves. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint en témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Saint Jean-Baptiste, que votre puissante intercession nous fasse à nous aussi de préparer les voies de l'agneau de Dieu. Lui seul peut effacer le péché du monde. Lui seul peut sauver les pauvres pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.